Radio Spirale. Aujourd'hui, une lecture d'extrait de recueil paru en 2011 aux éditions du Norrois par quatre jeunes poètes, Jean-François Leblanc, Antoine Boisclair, Jonathan Lamy et Hector Ruiz. Nous entendrons aussi une traduction inédite de Michael Ondaatje par son traducteur, Daniel Canty. La soirée se déroulait à la librairie Olivieri.
Bien, bien, bien. Bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle saison de lecture Norrois Olivieri, qui nous accueille chaque année depuis de nombreuses années. Yvon pourra me dire éventuellement combien d'années. C'est documenté, ça. Merci d'être là pour cette lecture, qui sera captée également par Radio Spirale, avec qui nous collaborons également. Radio Spirale, donc la radio que vous pouvez capter sur Internet. Alors, ce soir, nous avons cinq auteurs à vous présenter. Cinq hommes, rarissimes quand même dans les lectures de poésie du Norrois, mais ça, c'est comme ça. Alors, nous allons commencer avec Jean-François Leblanc qui publie « Rouge » dans notre collection initiale. J'entends un téléphone, mais c'est peut-être une vue d'esprit. Jean-François est né à Montréal. Il a complété des études en maîtrise en création littéraire à l'Université Laval. Il étudie actuellement au doctorat et il enseigne au collégial. La rupture inaugurale de « Rouge » donne lieu à un mouvement ascendant de l'être vers sa vérité, dans l'horizon de sa chute, sa clarté. La figure de la rupture amoureuse qui est au cœur de Rouge semble aussi être l'horizon le plus clair, la voix poétique qui s'y déploie et s'y dépose, laisse entendre un lyrisme ténu qui lutte contre l'insensé de la mort. Le poète revient vivre ainsi sur les terres du drame pour ériger la mémoire de la femme aimée. Or, pour que la poésie puisse tracer un chemin vers la réalité du monde, l'être doit accepter de se révéler dans son essence. Jean-François.
Bien, bonsoir. Merci, Paul, pour la présentation. Je vous lirai donc le premier verset du recueil. Au cœur de la rupture se découvre un clair reflet. Nu, gercé, je me déchire. Et toutes les voies pour mon cri referment le ciel et les étoiles en la mer que je verse entière sur la mort. Le déni cinglé en bandoulière, debout sur le piège du drame, les réponses sans question aux réminiscences à révéler le jour et la nuit, profilent les parcs, les lacs et les rivières. La réalité incarne ton absence, que je creuse pour espérer ton apparition. Mon désir liquéfie ta perte dans le mémorial du reflet. Une haine éperdue rouille mon sang. L'évidence se rive à mes iris éteints l'un dans l'autre. Défait l'été en un élan, les chaleurs de juillet, les roches levées à la voie ferrée et tes rires rouges en l'existence. Ta peau contre ma bouche, les chiens blancs de rancœur, mes premières arrivées à ton sexe, aveugle en plein jour, je les célèbre sans abdiquer pour réentendre ma sentence. Les saules lorgneurs d'automne cerclent l'errance et la solitude, cette femme de mon âge, m'aime à vouloir me tuer. Fendue à la manière du vide par ta silhouette, je veux m'atteindre pour tomber auprès des arbres brûlés. Ne plus retenir la terre, dépouiller ce qui commence. Rue baissant, je me retire en campagne, me rembuche auprès des bêtes jamais approchées, semant nos familles au pied des arbres. Sans bruit, le mensonge laisse sa composition se jouer. L'orage des souvenirs meurt en une rosée embrassant la nécropole de notre tendresse. Pour fuir, je détourne mon visage, cours sans perdre mon impatience qui me traque. Je dépaisse les rumeurs, avorte les bourgeons des érables, médite ta nudité sous la pluie. Tout me fait au nom de l'échec, ce partage coupable. Lueur vermeille, la vie se harnache à la seconde d'un regard sans nom. Et nos caresses érotiques et violentes dans les bois carmins ensemencent une brutalité à défricher. À l'ombre des pruniers du jardin, sans que je puisse le revoir jamais, ton dos impérial se tourne au-delà de l'horizon. Un instant précipite dans l'immortalité, tes parages, tes seins, tes lèvres, et la beauté devient jour. J'atteins les merles incarnats, brise les violons bourgognes, réduis en cendres les décors pour ne pas figer. Devant Dieu, j'éventre les chimères que délivre ma guerre. Tu ne me vois plus renaître pour survivre à la mort, herbe haute revenant imprenable du fleuve baignant l'origine. Sans poésie, je suis impossible. Je rêve de tout magnifier. Mes gestes incarnent des idées insensées. Je t'embrasse devant les planètes rubicondes de l'univers et te couche contre des galaxies aux mille soleils naissants. Notre rupture est une histoire mythique entendue pour la première fois sur une route de l'Antiquité, une détresse enchanteresse minuscule sur la page de l'innocence. Elle draine les doutes, veille les chaleurs fermentées, insolentes et transies de peur. Tes déceptions, feuilles tragiques et belles, sculptent le présent, et je me dénonce à toi, m'emporte pour un rien et pour tout ce qui me touche. Debout sans fléchir, je suis seul à aimer ce qui peut survenir encore. Le dos tatoué de ce que nous avons tué, je prends soin du murmure des images au contraire inexistant. Issus du silence, les calques de nos cœurs baiseurs ravissent les criques neuves de ta pudeur. Insoutenable ma peine a le poids du coton dans la main. Pour ma liberté, je plante 100 bûches corallines sur la plage de nos ébats, me couvre d'un linceul devant le feu, me rappelle des victimes dénombrées bien avant nous, et du thé devant l'éternité. En ces lieux où l'orge sait dire le dernier aveu des hommes, ma douleur est grande et déployée, en plein centre des vents, ma vérité. Dans une tranchée hivernale, la mort surgit à mes devants, en un duel invisible qui appelle le désespoir. Un vol d'oiseaux remémore ce grand soleil au goût d'orange levé par ton rire, ces marguerites poussant l'azur en tes yeux, ce roulement délicat des pierres rouges enveloppées de carmeline, et ta cicatrice, seule lumière à reconnaître. La mort à la gorge, j'agrippe des racines exsangues, flambe de courage devant l'irréversible, me hisse vers la terre laissant la vérité envahir mes veines. Moderne, j'arrive à moi, tel un homme libre, paré à aimer. Merci.
Merci Jean-François. Antoine Boisclair publie « Le bruissement des possibles », un premier livre au Norrois, mais ce n'est pas un premier livre pour Antoine, qui vit à Montréal et il enseigne la littérature au niveau collégial. Il a publié des essais, des articles, des notes de lecture dans différentes revues. Il a participé à la création des cahiers littéraires Contre-jour, qu'il a co-dirigé entre 2003 et 2009. Il a fait paraître aux éditions Fides une étude sur la poésie québécoise, L'école du regard, poésie et peinture chez Saint-Denis Garneau, Roland Giguère et Robert Melançon, qui a eu le prix du Canada en sciences humaines de la... et le prix Gabriel Leroy en 2009. Ici, le chant murmuré des choses terrestres est au cœur de l'écriture. Ce qui nous frappe d'emblée, c'est l'absence de métaphores, un mimétisme de prose et l'écoute d'un monde concret, tangible que le poète incarne. Sa parenté avec la prose ou à une poésie narrative n'est pas étrangère à la sensation d'un chuchotis, d'un bruissement justement, au cœur du monde bruyant. Cependant, c'est toujours le vers qui structure l'ensemble et cette distorsion du rythme, ce bruissement dont on dirait qu'il étreint son silence, fait entendre une voix originale. On pourrait dire qu'il y a une métaphore structurelle. La lenteur à tomber du poème se révèle en même temps dans l'image qu'il forme. L'idée est ici très concrète, très enracinée dans la réalité, qui trouve dans le langage son chemin et laisse entendre comme une rumeur d'arrière-monde. Antoine?
Merci beaucoup, Paul, pour cette belle présentation. C'est une belle lecture que tu viens de faire. Et merci à Paul et à Patrick Lafontaine d'avoir accueilli ce recueil au Norrois. C'est pour moi un honneur d'être publié au Norrois. Et longue vie au Norrois qui célèbre ses 40 ans cette année. Alors, j'ai choisi quelques poèmes d'une suite qui s'intitule « Arborescence ». Des poèmes qui m'ont semblé assez représentatifs de l'ensemble et qui, comme le disait Paul, à mon avis, en fait, j'essaie d'écrire des poèmes assez concrets qu'on peut visualiser autant que possible. Donc, c'est le cas, j'espère, pour les poèmes que je vais lire. Alors, le premier poème s'intitule « Le Merle ». Alors, « Arborescence » contient 12 poèmes, ça porte sur Montréal essentiellement. 12 poèmes, c'est pas très original, comme les 12 mois de l'année. Donc, j'ai choisi des poèmes qui, plus ou moins, correspondent à notre début d'automne, fin d'été, début d'automne. Alors, « Le Merle », c'est le titre du premier poème. À l'école du soir, le feuillage suspend son bavardage pour entendre la leçon des oiseaux. Le chant du merle s'enroule aux branches, comme les vignes amoureuses s'allient au silence. Sa mélodie coulante semble suivre les courants d'air, mais ce sont les courants d'air qui coulent en sa mélodie. Ses variations autour d'un seul thème réconcilient le même et l'autre, la nuit et le jour qui s'épousent en l'écoutant. À cet instant précis, sous les érables de Villeray, le garagiste interrompt ses travaux dans la rue parfaitement calme où passe un bruit de rien. Un chat, immobile sur son seuil, guette le merle immobile au bout d'une branche qui respire. La ville est silencieuse, l'air tiède s'adapte au corps et à l'esprit qui flotte. Éphémère quiétude, instant ténu comme un fil auquel s'accroche l'été, le merle recoule l'étoffe invisible du soir pour dire que tout est là, sans raison mais solidaire dans sa présence. Il chante intuitivement ce qu'il ignore. Il chante toujours les mêmes notes, dans un ordre toujours différent, pour ne signifier rien d'autre que son propre chant. Deuxième poème s'intitule « Le ferrailleur ». Alors, je ne sais pas si vous avez croisé des ferrailleurs dernièrement, ça fait partie des espèces en voie de disparition à Montréal, au même titre que l'aiguiseur de couteau, pourrait-on dire. Équilibre précaire vers 6 heures, quand le feuillage pressent l'aube, au bout des branches en attente. Odeur de pain qui lève avec le jour. Dans la ruelle, chaque chose vile s'illumine, à la suite de nuits sans sommeil. Un bruit de casserole s'approche, à travers la brume où surgit, tel un chevalier à la charrette, le ferrailleur cueillant les rebuts du matin. En retrait, nous l'observons brinque-ballé, dans sa solitude anachronique, comme un spectre en marge de lui-même. Nous le voyons précéder le camelot aux portes invisibles de l'aube. Autrefois, dans les légendes de quartier, le ferrailleur errait avec ses chiens pour transfigurer les ténèbres en or. Il transmutait les premiers rayons du jour dans un dégradé de couleurs à l'horizon. Aujourd'hui, plus donquichotesque en sa quête, il traverse les âges tant que bien que mal et parvient de nouveau jusqu'à nous, sur sa carriole chargée de sommiers. Il cherche toujours le lieu et la formule. Il recueille chaque goutte de rosée pour accomplir l'alchimie des règnes et des métaux. Troisième poème s'intitule « Marché public ». Il a plu. Un édifice fragile d'effluves s'élève dans les rues pour nous accueillir, derrière chaque porte qui s'ouvre, à chaque bouffée d'air. Nous entrons en nous, comme dans une maison retrouvée, après longtemps d'errance. Nous respirons l'air et, respirant, prenons conscience d'habiter notre respiration. Au marché Jean Talon, quand la verse s'évapore, les sensations élargissent ainsi l'espace des possibles. Pommes et tomates débordent des étalages dans une cascade de couleurs lentes. Le soleil ruisselle le long des allées où les langues, les saveurs et les parfums circulent en leur cours qui traversent toutes choses. Chiffres, paroles, pièces de monnaie dont la valeur fluctue, selon des lois qui nous échappent, images, symboles, tout ce qui nous unit, chaque jour dans une communauté précaire, tout cela nous emporte pêle-mêle dans l'opulence de septembre jusqu'au soir. Nous marchandons, pour le simple plaisir de marchander, l'or du maïs et des petits pois. Nous suivons l'économie, l'offre et la demande, grâce auxquelles l'air, les couleurs et les bruits s'assemblent dans une totalité mobile et permanente. » Autre poème s'intitule « Vente de garage ». On approche de l'automne. À l'heure des omelettes, le soleil glisse comme du beurre fondu. Sur les toits tôles et coule dans les rues du Myland où commence l'automne et se termine l'été. Une averse passe, parfois comme une jeune fille, courant pieds nus de toiture en toiture. Une mère acidique secoue la lumière de son tapis au seuil d'un autre temps. Les enfants courent pour rattraper ce temps. Plus loin, sur le parvis des garages où l'on vend des babioles, le sens des choses réside dans l'insignifiant. Une canne à pêche, un presse-citron, ou un roman policier dont on révèle la moisissure entre les pages qui craquent. On cherche l'aubaine, la réponse à l'énigme et l'origine du désir qui nous guide dans l'enchevêtrement des ruelles où les parties se réconcilient avec le tout et le tout avec les parties. On suit, porté par ce mouvement intuitif, les premiers frissons de brise fraîche dans un flot sans fin d'images, de signes et d'indices effleurant la conscience. On s'abandonne au flot de cette conscience. C'est maintenant l'hiver. Ce poème s'intitule « Ville-Marie ». Peu avant Noël, le ciel croule sous son propre poids. Il se décharge de lumière dans les rues du centre-ville où le temps ralentit, un instant avec la circulation, l'économie. Ville-Marie, pleine de grâce sous la neige, se fractionne en archipel pour faire des parties qui s'assemblent et se désassemblent dans un désordre heureux. Les flocons multiplient les lieux dont nous recollons les morceaux fugitifs. Nous existons tous ensemble dans la pluralité des mondes et des premières neiges. Particules, parcelles égarées dans l'innombrable, populations mouvantes des flocons. À travers le chaos du temps des fêtes, nos consciences vont d'île en île au gré des mouvements de foule. Nous naviguons de langue en langue dans un grand babillage jusqu'au soir, sous les guirlandes de Noël qui s'allument et s'éteignent. Nous cherchons le centre et la périphérie de l'essaim. Nous sommes chacun pour soi sur notre île avec nos silences et nos signaux. Est-ce que j'ai le temps pour un autre poème? Oui. D'autres poèmes s'intitulent « Quartier chinois ». Soir de tempête, comme un mode de disparition, une manière de se taire sous la neige ou une longue phrase blanche à la fin d'un chapitre. Soir de point de suspension, de souffle retenu. Le vrai marcheur ne laisse aucune trace, écrit Lao Tzu, qui n'a peut-être jamais existé. De fait, nous sommes des ombres parmi les rues dont les noms s'effacent. Nous avançons dans un passage étroit, au bout duquel le quartier chinois s'ouvre sous nos yeux comme un monde inconnu. Idéogrammes et symboles clignotent sur les enseignes, mais nous ne savons plus lire. Nous avançons tant bien que mal face au vent qui cisaille l'espace, mais la neige recouvre nos pas, nos paroles. Qui sommes-nous? La suprême vacuité, répondrait le Tao Te Ching. Une petite tache noire au milieu de la tempête, un point parmi les gratte-ciels, après une longue digression de rue et d'oubli. Un rien qui dit tout en s'effaçant, une forme d'effacement qui ne dit rien. Merci.
Merci Antoine. Jonathan Lamy est né à Montréal également. Il a publié « Le vertige dans la bouche » aux éditions du Norrois. Poète sonore, artiste de performance, animateur littéraire, critique et chercheur, il termine présentement une thèse de doctorat à l'UQAM. Oh, il est terminé. C'est vrai, je suis toujours en retard, il y a toujours un décalage. Hein? Mais la dernière fois, il n'était pas déposé. Hein? Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Bon, bravo. L'auteur commence ainsi son livre. « Jetons nos vies dans le feu. » Mais de quel feu brûle-t-on ici? Sinon d'une volonté de constituer un visage polymorphe et unique, uni et séparé par l'espace aussi bien que le temps, brièveté du poème qui le rend incisif et saisissant, car il s'agit bien de prendre forme, forme de visage, de muscles, d'os, de corps en allée dans une existence perdue, qui trouve dans les baisers et les larmes son désir de sens. C'est à coup d'abandon de nos vies, c'est à coup d'abandon que nos vies se sculptent, comme si toucher l'autre appelait sa disparition. Nos visages ne nous appartiennent pas.
Portons le désastre à la bouche. quand nous sentirons l'incendie en petits trous dans nos poitrines, nous tournerons la page. Tant de personnes abîment nos rétines. D'où vient? Comment traverse? Qu'est-ce que cela fait dans la tête? Je voulais te dire, mon visage manque d'un tas de choses qui t'appartiennent. À qui le nez, qui les yeux, les oreilles, les gestes de réconfort, tout est à toi, pour toi, le dedans, les odeurs, ce qui a été rompu, déterré. Retournons à l'atelier. Il doit bien y avoir de quoi ajouter un peu de peau, de nouvelles tournures à nos impatiences. Nous accordons à la chair des configurations inédites. Tu les composes avec tes doigts. Je réapprends à bouger les lèvres, à flancher, me dénouer, sortir de moi comme d'un four. Il y a des organes ventriloques. Embrasse-moi, nous donnerons des leçons à l'anatomie. Que ça danse, ça neige quand tu m'effleures. Tu déclenches des processus qui modifient mon corps. Que ça déchire. Tu me donnes tous les âges. Tes doigts collés contre mon crâne. Tu disposes de moi. Nous nous déguisons l'un en l'autre. Nous voulons ce qui n'a pas d'allure, l'impossible, aboli. Avec nos lèvres, nous allons vers qui nous sommes presque. Ce qui me gruge m'incarne. Je le remets entre tes mains. Tu enlèveras les éclats de miroir. Tu me retourneras comme de la terre. Des racines, un œil, murmure, un secret, bouche le trou avec la boue de ta bouche. Lèche chaque mot, chaque oreille, remets tes doigts sur ma face, je serai vrai, donné, brisé. Pianoté de salive, je ne porte plus que mon visage déboussolé. En plein milieu, comme un livre, nous deux, tranchés, chaque je et chaque tu tient une hache. Les flous se bousculent, les absences grognent, les massacres à venir, nous ressemblons à des gens qui sont morts. Pourquoi n'y a-t-il pas tes mains plutôt que rien? Je veux voir à travers tes mains, je veux. Ça ne sent plus, toi nulle part. Le sais-tu, ce que ça veut dire, toi, un visage? Tes dessins fissurent peu à peu mes paumes, mordillent les murs. L'éloignement fait son chemin. La pesanteur aura raison de moi. Nous inventerons les muscles qui manquent. Respirer sera encore possible. Nos silhouettes s'en mêlent, nos os s'entrebâillent. Nos corps pour comprendre le monde.
Merci Jonathan. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli cet automne un autre projet de Daniel Canty qui nous a proposé une traduction de Michael Ondaatje, L'homme aux sept orteils. Michael Ondaatje, on le connaît, né au Sri Lanka, il vit au Canada depuis 1962, il a remporté le Booker Prize pour le patient anglais, paru en 1992 et il est lu dans le monde entier. Quant à Daniel Canty, touche à tout, traducteur, auteur, réalisateur, il vit à Montréal. Il a traduit pour le Norrois Pierre Blanche, poème d'Alice, de Stephanie Bolster. Il a aussi traduit l'an dernier, enfin la traduction a commencé avant, vous comprendrez bien. Il a également traduit Alchimie de Brocante, l'art de Joseph Cornell, du poète américain Charles Simic. Il publie ces jours-ci un roman aux éditions de La Peuplade. Ce recueil de poèmes, ce livre de poèmes a été publié par les éditions Coe Charles Press en 1969, à un tirage très limité. En tombant dans les marais matriciels, pourrait-on dire, de cette histoire comme de son œuvre, la femme de l'homme aux sept orteils se retrouve dans un lieu de légende, légende qui se désarticule, dirait-on, multipliant les voix, le désir exacerbé du langage garde l'attention. Nous sommes sollicités en quelque sorte. Voilà une histoire singulière qui est tout aussi bien une dramatique à trois voix, s'articulant à la fois dans une narration et une construction en ellipse. Ce faux western nous fait entrer dans un autre temps, un temps qui est aussi fait de désirs, d'un langage charnel, de pulsions et de perceptions où le corps, le langage et le paysage ne forment qu'un seul objet. Le temps semble aussi un personnage de cette histoire qui ne cesse de se retourner sur elle-même. Dans les éclats de l'histoire, cette désarticulation feinte, c'est le récit d'une origine qui est mise en place, un peu comme dans le roman de Johann José Saher dans L'Ancêtre. Et ce livre est accompagné de dessins de Sophie Jodoin qui sont comme une résonance du texte et qui sont assez saisissants. Et ce livre est un projet pensé et réalisé par Daniel Canty.
Merci Paul. Je vais vous lire l'épigraphe en fait pour commencer, qui est un peu le backstory, comme on dit en cinéma, de cette histoire de l'outback australien. Mrs. Fraser est une lady écossaise qui a fait naufrage sur ce qui est aujourd'hui l'île Fraser, près de la côte du Queensland. Durant 6 mois, elle a vécu parmi les aborigènes, perdant très vite tous ses vêtements, jusqu'au moment où elle a été découverte par un certain Bracefell, un bagnard déserteur qui vivait caché depuis plus de 10 ans parmi les tribus australiennes. La lady a demandé au criminel de la ramener à la civilisation, ce à quoi il était prêt si elle promettait d'intercéder auprès du gouverneur pour son pardon. Le pacte conclu, le couple s'est dirigé vers l'intérieur des terres. Au premier signe d'une présence européenne, Mrs. Fraser s'est retournée contre son bienfaiteur et a menacé de le livrer à la justice s'il ne décampait pas aussitôt. Bracefell est reparti désillusionné vers le bush hospitalier. Les aventures de Mrs. Fraser ont suscité un tel intérêt et une telle admiration qu'à son retour en Europe, elle a pu s'exhiber pour 6 pennies la séance à Hyde Park. C'est un épigraphe de Colin McInnes, un auteur britannique qui a écrit ces mots pour présenter le travail du Riopelle australien qui est Sidney Nolan. Je vais vous lire le début de l'aventure. Le train bourdonnait comme un oiseau au ras des rails. À travers le désert, les herbes pâles. L'air tourbillonnait dans les voitures. Elle est allée vers l'escalier sans porte, sentir le vent fouetter ses genoux. À l'arrêt au réservoir, elle est descendue s'asseoir près des rails, sur des pierres grosses comme des poignets. Le train a tremblé, roulé loin d'elle. Seulement, elle était trop lasse pour crier. « Reviens », a-t-elle murmuré pour elle seule. Elle s'éveille, un chien planté à son épaule à ne rien faire. Il ne la voit même pas, le regard perdu au bout des terres. Elle sursaute et il trotte un peu plus loin se lécher le pénis, cette fleur rouge du désert. Elle détourne les yeux. Autour, il n'y a que du vide. 1 heure passe. Enfin, le chien bouge. Elle le suit, la tête nimbée de moustiques. Ils apparaissent dans la clairière, tournent des têtes scarifiées d'ornements, plumes, ossements, pigments d'argile collés et embrochés sur la peau, cordage noir des muscles d'une minceur fanatique. L'un d'entre eux, l'œil droit manquant, apporte à manger sur une feuille. Ils m'ont épluché les vêtements comme une cosse et ont jaugé ma blancheur, tiré mes seins, soulevé mes longs cheveux, leurs doigts grouillant sur ma tête, puis ils ont ri en me jetant ma robe rouge. Ils filent droit comme les pinoches, on entend leurs orteils craquer sous leur poids, côtes affûtées comme des becs d'oiseaux, cuir gris des genoux, une géographie sous la plante des pieds. m'ont léché, sensation de métal froid, ont enfoncé des doigts chauds dans ma bouche, arraché mes plombages d'argent, enfilé, porté en talisman. M'a léché, bavé l'amour à mon oreille, arraché mon lobe, l'a mâché, un jour de mariage lui pousse là, dans l'estomac. Puis lui en moi, en ma chair, comme un, tam-tam. Corps disparu, rétréci derrière grandes plumes d'oiseaux, muscles poings serrés, ont bondi, se sont élancés en dansant jusqu'au ciel, se sont roulés en boule pour replonger. Nouveaux météores, symétriques. Leurs coups se sont étirés en vagues ondoyantes, muscles fléchis des cuisses les ont propulsés tête à l'envers pour atterrir au ciel. Des marches de rôdeurs, hargnes mimées, crachant sur les proies mythiques, bras entrouverts, corps levés, mordants, chevêtrés, ont jeté bras et jambes qui pourraient bien appartenir à d'autres, ont hurlé leurs âmes, célébré leur chair, tout dévoré et pris du ventre. Des boucs noirs, sacs broussailleux au centre, verges dressées, oiseaux volant vers toi, s'abattant sur toi, et les sourires, ces sourires lorsqu'ils t'ébouriffent, t'entrouvent, te renversent par terre, sautent, viennent sur toi, arcs laiteux, fontaines dans ta chevelure, sur ta tête, dans ta bouche, qui sèche là, se cicatrise, crispe ton visage. Puis ils se lèvent, vont cuisiner du renard ou quoi, ou des boucs, manger des boucs, hisser leur corps entrouvert comme des vulves mauves autour des côtes. Puis ils arrachent pour toi un couteau sous la gorge, une main dans les chaudes, les bouillantes, les sombres entrailles qu'ils déchirent, et le sang explose comme de la dynamite, tombe en plein dans la bouche des enfants assis par terre qui rient, le recueillent dans leurs mains ou vont chercher un bol, du sang comme de l'or au fond des paumes. Et les hommes déchiquettent la chair effilochée, les muscles nerfs, verts et rouges, encore soutillants, cordages tendus comme toi. Et ils fourrent la tête et saisissent vite, vite, viens vite, viens vite, le cœur encore battant, arrêté d'un coup, et attrapent le cœur toujours vibrant entre leurs lèvres dures, tranquilles, et le dévorent vivant, vivant encore dans leur bouche, leur gorge battant, et puis bang, encore bang dans leur estomac. La nuit, le vent tournoie en tête, picore la sueur de ton corps. À quelques verges, il rue contre la nuit, ciel cru, à vif. Elle a entendu se frayer un chemin entre les racines des quenouilles jaunes. Coude saillant pour garder l'équilibre, replié, à demi titubant, il avance comme un corbeau entre les herbes, la boue et l'eau, traverse le tronçon ensoleillé de la rivière, ses réflexions s'éparpillent, deviennent des rayures de zèbres, galopant au loin. Lui, au centre d'un vaste disque d'ondes, convergeant vers elle et frappant ses genoux. Son regard bégaye devant la couleur soudain de cette femme sur la rive, robe rouge coincée entre les cuisses. À suivre.
Merci Daniel. Notre dernier invité est Hector Ruiz, et qui publie « Gestes domestiques », originaire du Guatemala. Il est titulaire d'une maîtrise en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons publié « Qui s'installe » en 2008, qui a été finaliste au prix du premier recueil de la Fondation LA Finance en France et au prix des lecteurs du marché de la poésie à Montréal. « Quel mal demeure caché dans la langue, semble nous dire le texte, que les gestes ordinaires contiennent, comme si une gestuelle souffrante de la langue couvait. La plus grande violence donnant lieu, toutefois, à la plus grande tendresse. » Le vers s'ouvre vers la prose, et dans son déploiement, la domesticité change de registre. La mémoire trace ses méandres, ses secousses, sans balises ni ponctuation. Le corps où se débat placidement une patrie perdue apparaît porté à la fois par cette errance et ce réel implacable qui le mobilise. La descente dans les rues et les tunnels, ceux de la ville comme ceux du corps, élabore un temps entre le sommeil et la veille. Une vie nocturne, une mort diurne, peuplée de doutes, d'ondes urbaines, de désirs, cette étrange réalité. Hector?
Merci. Merci, Paul. Merci à vous aussi d'être ici. Geste domestique se divise en trois parties. Demi-sommeil, l'abattement et sans rayon. Donc, je vais lire quelques poèmes de chaque partie. Demi-sommeil. Un mouvement dans les rideaux, une odeur humaine, animale, ni agréable, ni désagréable. On se réveille au coin de l'aube avec un doute. Les feuilles mortes tachent l'asphalte. Du front au nez, une chaîne de montagnes. Du sable sur la rétine, des cascades dans les yeux, Les lèvres en rafale, les cœurs secs, secs mais vastes, les sexes c'est déjà la nature. Mon esprit, je le vends au brocanteur. Le sommeil tamisse la lumière de la peau, efface les frontières. Quelques spasmes secouent le squelette. Des noces auront lieu dans son instant. Continuons les yeux fermés, jusqu'à l'interdit. Les vertèbres défaites retrouvent le silence de la neige. Entre les rêves, les yeux s'ouvrent. À genoux, au bout de la ruelle, je prends mon pouls. Les battements de la mort. Déserteur. La pluie lave nos imperméables. Je me réfugie dans les métros qui me transportent vers le ventre de la ville. La vitesse rentre par les fronts, m'incorpore à la terre noire. Les chiens jappent dans les tunnels. Je me perds parmi les noms de rues, de femmes, corps et conscience en guerre. Je ne résiste plus aux natifs qui m'assaillent. La nuit, je bois du café, regarde par la fenêtre et je suis assis sur le trottoir, mange du riz avec les doigts. Avant l'aube, je peins une danseuse pour fuir le soleil au cinéma. Quand nous sommes sortis avec les nouveau-nés, les mondes s'étaient finalement écroulés. L'obscurité fuit. Aucun nuage, aucun avion ne traverse les ciels. La ville est livide. Déchets et débris jonchent les rues. Un camion des pompiers déploie son échelle. Au coin de la rue, une voix blanche. S'il vous plaît, comprenez-vous ce que je veux dire? S'il vous plaît. Derrière la lumière, il n'y a que de la noirceur. La nuit est sans fin. J'assiste à une fête. Le corps est une maison hantée, où des enfants effrayés courent dans tous les sens. L'abattement. Un enfant assiste à l'abattement. Grand ouvert, les yeux des personnes l'accompagnent dans l'insomnie. Les cibous s'installent à la fenêtre, les fourmis trament les couvertures, les corps sus foncent et décomposent, les ciels dans l'océan, la vague qui dispose d'un voilier et de sa trajectoire. Mon regard interdit tout plaisir, transforma mon corps en proie, en esclave, un animal des cirques au galop précis, restreint par les cercles et les rythmes du fouet. Assis sur un banc des parcs, j'ai contemplé les grandes batailles navales de l'histoire. À chaque page, un assaut, le tonnerre des canons dans les ventres, la décharge du corps, les cœurs déchaînés. Il était temps d'essayer l'ennemi, lui arracher les cieux. J'étais assis sur les bancs des accusés. Songez aux insoumis d'autrefois, à leur faute impardonnable. Les livres sont des testaments. Je suis l'héritier de la nuit. Sans rayon. J'ai vu une souris l'autre soir. Elle contournait prudemment les coins du lit, comme s'il s'agissait d'un coin de rue achalandé. Pendant 2 jours, je n'ai pas pensé à autre chose. Pendant 2 nuits, je n'ai pas fermé l'œil tellement je voulais entendre son frôlement sur les planchers. Hier, j'ai acheté une demi-douzaine de trappes Victor et dans les noirs, j'ai entendu des têtes rouler. Impossible de rattraper la tête qui échappe au corps. Mon geste n'altère plus ta poitrine. Nous sommes au plus près de l'impuissance, de l'abandon. Nos regards intermittents des statues fragiles sondent les tunnels en quête d'indices sur la prochaine station, comme si chaque syllabe du nom pouvait éclairer nos trajectoires. Plus tard, dans les métros, en direction de la polyvalente Permarket, j'ai chronométré les trains entre les stations. C'était après la 2e explosion. La mémoire pourrait tuer les corps cachés dans les tunnels, mais ils résistent à la démesure des lettres, à la grossièreté des voyelles. Quand ils auront la force, ils sauteront dans les trains vers les plaines de l'Ouest. Mais pour l'instant, je restais là. La langue est brûlée. Merci.
Bien voilà, un programme de lecture pour l'automne fort intéressant, ma foi. Notre prochaine rencontre, Olivier, aura lieu le 7 novembre avec, entre autres, Corinne Larochelle et Monique Delan. Et nous pourrons également entendre des poèmes de Michel Beaulieu, Paul Chanel Malenfant et Rina Lagné. Entre-temps, bien, la semaine prochaine, au Poète de l'Amérique française, à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, sera présenté l'oratorio qui a été composé par Éric Champagne sur des extraits, une quarantaine d'extraits de Poètes du Norrois. C'est une œuvre surprenante, vivifiante, intéressante, à mon sens en tout cas. Et je vous invite à aller entendre ça, ça vaut la peine. Et jeudi prochain, 13 octobre, donc, ce sera notre lancement annuel, qui, cette année, est également un vernissage. On est dans les fêtes des 40 ans du Norrois, donc les artistes ont toujours eu un rôle très important dans la maison, et nous leur rendons hommage, en quelque sorte, cette année, en créant, par le biais de Gilles Daigneau et Marc-André Brouillette, une exposition qui comporte 80 œuvres qui ont paru dans des livres des éditions du Norrois au fil du temps, depuis 1971 jusqu'à 2011. Donc, c'est une exposition qui, je crois, sera assez stimulante, assez étonnante aussi, puisque le format du livre, parfois, nous empêche ou nous met à l'écart de la dimension réelle de l'œuvre. Alors, il y aura des œuvres qui sont tout petites et des œuvres qui sont plus grandes que dans les livres, bien sûr. Si vous voulez en apprendre davantage sur le Norrois et les 40 ans de la maison, bien, il y a le bulletin qui est à ma gauche complètement, face à Daniel, qui le pointe. C'est un bulletin très substantiel qui fait le tour des différents aspects de la maison. Je crois que c'est très, très, très fertile encore là en réflexion. Et ma foi, que vous dire, sinon que vous invitez le 25 novembre à notre grande fête de fermeture des célébrations du 40 ans de la maison. J'espère qu'on se rendra en une seule pièce jusque-là, si ça devrait être le cas. Et entre-temps, bien, bon automne à vous et merci de votre écoute, merci de votre attention et bon automne en poésie, bien sûr.